Eh bien, ces quelques partages maintenant. Parce que je crois que Dieu veut que nous combattions le bon combat de la foi. Le salut du Seigneur, on l'a entendu, on l'a très bien entendu par la chorale, par les chants, par la Sainte Cène. Le salut du Seigneur, il est parfait. Vous le croyez? Le salut du Seigneur, il est complet. Ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au salut du Seigneur? Vous seriez quand même de mauvaise foi si vous vouliez ajouter quelque chose. Dans l'Ancien Testament, nous venons de prendre cet exemple où Sanchérib, qui a conscience qu'il est puissant, il a écrasé plusieurs nations, et il se dit, bon, comme j'ai écrasé plusieurs nations, je ne vois pas pourquoi je n'écraserai pas Israël. Voilà. Et il est plein d'assurance, il ne connaît rien à la parole, on le voit. Mais Ézéchias, lui, a été intelligent. Il n'a pas regardé qu'au visible. Parce que si vous regardez qu'au visible, vous allez vous arrêter sur le péché abonde. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut pas rêver. Pourquoi tant de chrétiens, je le répète, sont découragés? Parce qu'ils ne regardent pas à ce que Dieu a à leur dire, ils regardent à ce que Sanchérib leur dit. La prière d'Ézéchias, vous l'avez lu avec moi, versets 7 et 8, vous avez vu? Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, il y a un bras de chair, voilà. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, il fallait mettre un mur de plus, il fallait boucher les sources, voilà. Il y a des choses qu'on peut faire humainement, il faut le faire. Mais Ézéchias leur dit, attendez, il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous ne voyez pas. Il en est de même pour nous. Il y a ce que l'on voit, parce qu'on voit le visible, mais quand même, Dieu nous demande aussi de voir l'invisible. Alors, ça, c'est un exercice un petit peu plus compliqué, mais est-ce que vous croyez que les anges vous protègent? Bon, là, c'est un peu plus facile déjà quand on parle. On se sent en sécurité quand on sait que des anges nous protègent. Oui ou non? Bon. Sanchérib est en train de leur dire, écoutez, il y a un bras de chair, bon, c'est ça, mais il y a plus que ça. Il y a le Seigneur qui est avec nous. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous avez accepté le sang de Jésus, vous êtes devenu un de ses enfants et Dieu est avec vous. Et vous devez apprendre à ne pas regarder les circonstances. Vous voyez, moi, ça, franchement, lundi soir, pourtant, je m'applique à la parole. Je fais que ça. Je m'applique à la parole. Mais voyez, pendant une demi-heure, j'étais quand même perturbé. Et j'étais dans le péché à abonder. Parce que c'est vrai quand même, on n'a pas avancé là. Le pays n'avance pas, je vous le dis. Mais je crois que nous, on ne regarde pas ce qui est visible. On regarde à notre Dieu qui vit dans l'invisible, qui bénit les choses, qui veut les bénir auprès de ceux qui lui font confiance. Ézéchias a eu confiance. Il a propagé cette confiance à tout le peuple et ça a dû plaire à Dieu. Et Dieu a honoré leur foi. Car c'est une loi. Dieu honore cette foi, donc cette confiance. N'oubliez jamais qu'à la place du mot foi, vous pouvez mettre le mot confiance. Dieu a honoré leur confiance. Combien moins, disait Sanchérib, combien moins votre Dieu. Voilà, ça c'est la parole du diable. Combien moins. Il va dire, mais oui, d'accord, il est écrit ça, mais tu crois que Dieu va te bénir. Oui, t'as connu cet échec, tu crois que tu vas t'en sortir. Combien moins. Vous avez vu au verset, c'est pour ça que je vous ai dit au verset 15, moi je l'ai souligné, combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de sa main? Vous voyez, c'est ça, la parole du diable c'est moins, Dieu fera moins que ce qu'il dit. Eh bien écoutez, moi je crois que Dieu peut faire plus que ce qu'il a dit. Et le monde essaie de vous faire croire que Dieu peut faire moins. Vous avez connu des échecs? Qui n'a pas connu d'échecs? Vous avez connu des épreuves? Vous vous êtes vous-même mis dans certaines épreuves? Et alors? Moi, je crois que nous avons un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à faire confiance. C'était le titre de ma prédication mardi. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Tout. Paul disait, j'ai appris à être content dans l'état. Il a appris. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance. La piété, ça s'apprend. Tout s'apprend. Écoutez, si vous connaissez la Bible, à part l'adoration, parce que l'adoration c'est quelque chose qui doit être spontané, on n'apprend pas, adore Dieu, tu conjugues adorer à la première personne du singulier, je t'adore. Voilà. Est-ce que parce que quelqu'un dit je t'adore, ça fait de lui un adorateur? Bien sûr que non, vous avez compris. L'adoration, on peut donner des éléments qui vont permettre aux gens d'adorer Dieu, mais tout le reste s'apprend. Et c'est pour cela que Dieu met des pasteurs dans les églises, pour que les chrétiens apprennent à faire confiance, pour qu'il y ait de plus en plus d'émilies qui disent, voilà, je me débattais, j'en avais assez, jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre toute ma confiance en Dieu. Et Dieu a agi. Ézéchias a mis sa confiance en Dieu, le peuple a déteint, et bien Dieu a honoré la foi. Et vous, et moi, que croyons-nous? Est-ce que nous croyons ces promesses? Ces promesses sont-elles bien plus ou sont-elles bien moins? Où on en est ce matin? Où nous en sommes ce matin? Vous et moi, chacun d'entre nous. Où nous en sommes? Où vous en êtes, vous qui écouterez cette prédication sur Internet? Où vous en êtes? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons? Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Il y a des choses qu'on ne voit pas, on ne les voit pas. On ne les voit pas avec les yeux. Même si vous lisez avec votre intelligence, vous allez lire le péché abondé, la grâce a surabondé. Oui, oui, c'est dans la Bible. Mais quand la parole de Dieu agit, moi je vous assure, moi je me suis endormi lundi soir, mais comme un guerrier. J'ai préparé toute cette prédication dans ma pensée. J'étais envahi parce qu'un verset de l'Écriture était vivant dans mon cœur. Et je le crois vraiment qu'avec un mot, dis un mot, je crois que c'est vrai, et ton serviteur sera guéri. Rappelle-moi une promesse, et ton serviteur sera fortifié. Dieu a préparé les choses. Dieu a tout préparé à l'avance. Vous croyez que dans le ciel, ça doit être prêt? Vous croyez que M. Salvador, quand il est arrivé au ciel, tout était prêt pour lui? Est-ce qu'il l'a dit, le Seigneur, que tout est prêt? C'est écrit, je ne sais pas combien de fois, tout est préparé. Tout est préparé. Tout, sauf nous. Tout est prêt. Dieu a tout préparé. Et plus que ce qu'on peut concevoir, certainement. Alors, bien sûr que le péché est entré dans le monde. Je ne vous apprends rien. Le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Bien sûr que tout va mal. Bien sûr qu'il y aura des temps difficiles. Qu'on est dans les temps difficiles. Bien sûr que les ténèbres s'épaississent. Mais la grâce de Dieu est plus grande encore. Est-ce que vous le croyez? Vous en êtes sûr? Il faut que vous compreniez ces choses. Il faut que vous compreniez ces choses pour que vous appreniez, que nous apprenions à faire confiance. Regardez, on a entendu un cantique. J'ai dit à Jonathan hier soir quand il m'a appelé. C'est très bien, c'est dans ma prédication. Dans Romains au chapitre 5, au verset 7, c'est la prédication. Peut-être que vous venez pour la première fois et vous vous dites, tiens, comment il compose ces cantiques? Eh bien, voilà, c'est de la plagiat, ça s'appelle. Romains chapitre 4, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Rappelez-vous les paroles. Regardez bien. Je le répète, la parole doit être vivante. Ce n'est pas une question d'intelligence. Bien sûr que ça passe par le filtre de l'intelligence, mais ça doit venir dans votre esprit. Romains chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous... Notez-le. Lisez-le, réfléchissez-y, à plus forte raison. Oui, le péché est entré dans le monde. Oui, par un homme, le péché est entré dans le monde. Oui, la mort est entrée dans le monde. Oui, le péché abonde. Mais ce texte nous dit que si ces choses sont là, si le péché est entré dans le monde, à plus forte raison, la grâce de Dieu surabonde. Regardez au verset, eh bien c'est le verset 21. Mais regardez le verset 15, c'est le verset 21, verset 20, où il est dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Mais regardez maintenant le verset 14. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. » Alors, on peut en rester là. Oui, par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts. Adam, il a fait rentrer le péché dans le monde. À plus forte raison. Vous vous rappelez, Sanchérib? Combien moins. Et quand vous voyez les apôtres, eux ou Dieu, ils disent à plus forte raison. La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Oui, nous avons été dans la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et la grâce de Dieu est plus grande que la mort. Vous le croyez? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? La grâce de Dieu, elle est plus grande que la mort. Est-ce que vous croyez que le remède est plus grand que la maladie? Dans le monde, des fois, on se rend compte que le malade, que le remède fait plus de mal que la maladie. Non mais, ça fait peur. Ça fait peur. Vous entendez, ah oui, le remède a fait plus de mal que de bien. Merci. Mais dans la parole de Dieu, ça vous le rencontrerez pas. Le Seigneur Jésus, le remède, il est plus grand que le mal. Et nous devons avoir cette assurance. Personne ne peut servir Dieu. Moi, vous savez, en tant que pasteur, je me pose des questions. Pourquoi cette personne ne vient plus à la réunion de prière? Quand même, bon, qu'on le veuille ou non, c'est quand même des questions qu'on se pose. Je sais bien qu'il y a le problème du parking, je le sais. Mais quand même, pourquoi cette personne n'est plus impliquée parmi les ados? Pourquoi cette personne n'est plus impliquée comme elle l'était avant? Alors, on n'a pas à faire de l'ingérence. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Quand quelqu'un vit dans la grâce de Dieu, il ne peut pas faire autrement que d'apporter ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et le remède est plus grand que le mal. On vient de lire Romains à plus forte raison. On vient de relire dans Romains à plus forte raison. Paul termine, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le salut, c'est une affaire réglée. Est-ce que le salut est une affaire réglée? Ou est-ce que vous faites partie de ces chrétiens? Ben, j'espère que je suis sauvé. La Bible, Jean, il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. On ne dit pas, je suis pentecôtiste, avant j'étais catholique, ou j'étais baptiste, ou j'étais ci, ou j'étais là, maintenant j'ai changé de religion. Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous pouvez dire, je sais une chose, je suis sauvé. J'ai accepté Jésus-Christ. Je sais que si le péché abonde, sa grâce abonde dans ma vie. Sa grâce est dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté le sang de Jésus-Christ comme moyen de rédemption. Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus vous a purifié? Vous le croyez? Voilà. Bien sûr, vous allez faire des progrès. Si vous n'êtes pas baptisé, vous allez vous engager dans ses voies. Mais si vous avez accepté le sang de Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Vous pouvez dire, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Les parents, il y a des parents dans l'église. Vous avez vu qu'en ce moment, je parle souvent de l'image qu'il y a entre les parents et Dieu. Bon, est-ce que vous qui êtes papa, vous qui êtes maman, est-ce que c'est important de donner de bonnes choses à vos enfants? Voilà, les mamans. Allez, les mamans, écoutez bien. Vous avez des enfants? Vous en aurez? Bientôt, vous en aurez des enfants? Non? Eh bien, bon. Vous qui êtes maman ou grand-mère, comment vous donnez à vos enfants? Comment vous donnez? Est-ce que vous pensez à ce qu'ils auront besoin? Est-ce que vous anticipez parfois les besoins? Tiens, ou les petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, c'est encore pire. Mais voilà, tiens, ça serait bien pour lui. Je suis persuadé que des mamans, des vraies mamans, anticipent souvent même les besoins de leur enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Et qui c'est qui a créé le cœur de la maman? Bien sûr, c'est Dieu. C'est quelque chose de simple à comprendre. Qui d'entre nous croit vraiment que Dieu est capable de faire pareil? D'anticiper. Vous savez, je vous avais raconté une histoire que j'ai vécue. Je l'ai vécue en Polynésie. J'étais dans un moment de découragement. Ça a duré des années, c'était pénible. Vous savez, j'ai pensé au pire, c'était des moments très difficiles pour moi, très très difficiles. Et un soir, après une réunion, j'étais fatigué. Vous savez, quand vous êtes épuisé, Et en montant la petite côte qu'il y avait pour aller à ma maison, c'était le soir après la réunion, je pensais, vous savez, des fois on avait des petits désirs. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir du Pomerol. Vous savez ce que c'est le Pomerol? Bon, c'est un très bon vin. C'est du très, très, très bon. Mais ça, c'est la faute aux chrétiens. Ils n'ont pas qu'à nous gâter. C'est la faute aux chrétiens. Du pomerol. Et un sashimi. Un sashimi, c'est du chou avec des tranches d'espadon. Enfin, dessus. Et une sauce. Et vous voyez, j'étais là. Je disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir du sashimi et un peu de pomerol. Je rentre, j'allume la lumière. Qu'est-ce que je vois sur la table de la salle à manger? Un pomerol et du sashimi. J'ai failli pleurer. Parce que c'est pas, je l'ai pensé 5 minutes avant, 3 minutes avant. Et la sœur qui m'avait amené ça à 7h du soir, avant la réunion. Tout ça pour vous dire que je crois, que nous devons croire que Dieu est capable d'anticiper. Parce que je pense qu'il n'y avait que lui qui devait savoir que je demanderais ce vin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que Dieu sait tout? Mais c'est ça la confiance. Et sans chérir, Ézéchias, il est dans cette pensée. Il est dans cette pensée. Mais voilà, bon, il faut boucher les sources. Ils n'ont pas besoin d'avoir de l'eau quand ils viendront. Il faut mettre un mur. Il n'est pas dans le je m'en foutisme. Il est dans la foi. Il dit voilà, ce que je peux faire, je le fais. Ce que je peux faire, je le fais faire. Mais moi, je veux que les autres sachent que j'ai confiance en ce Dieu tout-puissant. Vous avez entendu la prophétie ce matin ? Que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Et les parents doivent le comprendre. Regardez dans Luc 11, 13. J'ai pris cette expression, vous savez, avec une concordance, je vous enseigne parce que c'est bien d'apprendre seul. Luc 11, 13. J'ai pris la concordance et j'ai cherché le mot à plus forte raison. Alors voilà, on en a déjà vu deux ou trois. Regardez, dans Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils ? S'il lui demande du pain, est-ce que ça vous est déjà arrivé, les mamans, les papas, de mettre sur la table de la cuisine, au moment du repas, une grosse pierre d'un kilo et demi ou de deux kilos, pour le pain de la mère? C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Est-ce que ça vous est arrivé, vous qui aimez vos enfants, ou même si vos enfants sont pénibles, est-ce que ça peut arriver que nos enfants soient pénibles? Oui, je vous le dis, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que malgré tout, est-ce que vous avez mis une pierre sur la table? Ben non, pourquoi? Mais parce que vous aimez vos enfants, parce que vous voulez les nourrir. Et lisez la suite. Oh, je ne vais pas commenter tout quand même. Et s'il demande du poisson, un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que nous qui sommes méchants, méchants dans le sens comparé à Dieu, même le meilleur d'entre nous, dit la Bible, est comme une ronce. Mes frères et sœurs, nous qui sommes pas toujours bien disposés, nous allons faire du bien à nos enfants. Nous donnerons pas quelque chose de mauvais à nos enfants, nous donnerons à manger à nos enfants, mais alors à plus forte raison. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit? Combien de chrétiens se bagarrent avec eux-mêmes ou avec Dieu, se bagarrent dans des luttes, des angoisses, des prières inutiles? On a entendu ce matin qu'il pouvait y avoir des prières inutiles. Que de combats pour rien, que de déchirements inutiles pour rien. Dieu donne le Saint-Esprit. S'il vous a donné déjà sa vie, à combien plus forte raison il vous donnera le reste? Sans sa grâce, nous sommes perdus. C'est pour ça que, même si le péché abonde, même si le péché multiplie, la grâce de Dieu surabondera toujours. Est-ce que vous entendez? Si vous ne me répondez pas, je prêche jusqu'à 1h de l'après-midi. Je vous assure que vous allez comprendre. Mes frères, est-ce que vous croyez que la grâce surabonde? Est-ce que vous croyez que la grâce est plus grande que le péché? C'est ça, voir l'invisible. Vous, si vous ne voyez que ce qui ne va pas, vous allez voir les épreuves et les conséquences des épreuves. Mais moi, je vous dis que Dieu peut changer le mal en bien. Oui, des choses règnent sur nous. Il y a des choses qui continuent à régner. Tiens donc, est-ce qu'il y a des choses qui continuent à régner sur vous? Votre caractère. Où en êtes-vous de votre caractère? Hein? Moi, je vois rien que les stagiaires, tout ce que je... Hein? Le tempérament. Est-ce que des fois, il n'y a pas des problèmes avec notre tempérament? Des craintes, est-ce qu'il peut y avoir une crainte parfois? Lisez les psaumes et vous verrez le combat que David a eu. Et parfois, ses yeux se plaisaient à regarder ses ennemis. Et parfois, je peux vous dire qu'il les fuyait, ses ennemis. Mais dans les deux cas de figure, il a expérimenté la grâce du Seigneur. Voilà, il faut recevoir l'abondance de la grâce. J'ai demandé qu'on termine avec un cantique qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai commencé à être stagiaire il y a presque 30 ans à Toulouse, à Albi. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on chante, on ne réalise pas. On va le chanter pour terminer tout à l'heure, Monsieur Gondin. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on reçoive. La parole de Dieu, elle doit être vivante. C'est un verset, Jean 3,16. Ce soir, vous lisez Jean 3,16 pour la 250e fois. Bénissez le Seigneur pour votre salut. Apprenons à réagir par notre esprit, par notre cœur, et non pas avec notre intelligence. Ça fait 10 fois que vous reprenez ce verset. Monsieur Gau, vous auriez pu prendre un autre texte. Ben voilà quelqu'un qui n'écoute pas avec son cœur. Écoutez, si Dieu permettait, bien sûr qu'il faut que ce soit vivant, mais que le même verset nous soit communiqué chaque semaine pour la Sainte Cène, ben que son nom soit béni. Que son nom soit béni de nous rappeler son sacrifice sur le bois de la croix. Le vrai problème, je le dis depuis que j'ai repris, c'est qu'en vérité, les chrétiens ne font pas confiance à Dieu. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils croient en Dieu, Ils aiment Dieu à leur façon, mais ils ne lui font pas confiance. On a chanté un très très beau cantique sur l'importance de ne jamais s'inquiéter. Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Ne vous inquiétez de rien. Eh bien, on va le relire. Et que quelqu'un ne vienne pas me dire que c'est la centième fois qu'on le lit, ce verset. Parce que vous allez voir que mon caractère n'est pas tout à fait changé. Si, si, je plaisante. Matthieu chapitre 6, verset 30. Mais regardez, ça fait combien de fois que je vous parle de ce verset ? Sérieusement, ne soufflez pas, Madame Grondin. Ça fait combien de fois ? Matthieu, ça fait des centaines de fois. J'espère que vous n'êtes pas habitué à ce beau verset. Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Vous aimez les fleurs ? Bon. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas et que mangerons-nous, etc., 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 etc. À plus forte raison. Mais c'est ce passage. Je l'ai pris parce que je l'ai pris parce que à plus forte raison c'est écrit. Mais je l'ai pris, et pour expliquer justement cette vérité que je viens de relever, est-ce que ces choses sont familières pour vous ? Vous connaissez Matthieu 6, mais est-ce que ce verset continue à opérer en vous ? Est-ce que ce verset continue à travailler comme cette épée qui travaille, qui opère, qui charcute un petit peu ? Est-ce que, ou alors c'est tellement devenu familier, c'est même pas pour moi, c'est pour les nouveaux, mes frères et sœurs, je vous plains. Si ces choses-là vous sont devenues familières, je vous plains parce que je sais ce que c'est quand ça devient familier, les choses de Dieu ne nous atteignent presque plus. Et c'est vraiment dommage. Regardez dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 9. Verset 7, on revient sur ce texte. On revient. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Encore une fois, quelqu'un pourrait dire, ah mais vous avez déjà cité ce verset. Vous savez, j'ai entendu ce genre de réflexion. Eh bien, c'est bien, parce que ça permet peut-être à quelqu'un de dire, mais c'est clair, j'ai besoin de réentendre qu'à plus forte raison, tu vas me bénir. Qu'est-ce qui veut dire ce verset ? Ben, ça veut dire que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous entendez ? Est-ce que vous le croyez ? Ou est-ce que vous regardez la crise ? Est-ce que vous voyez telle entreprise qui ferme ? Est-ce que vous voyez que vous risquez peut-être d'être dans 6 mois au chômage ? Ou est-ce que vous croyez que Dieu veille sur tous ses enfants ? Bien sûr qu'il faut faire ce qu'il demande. Demandez, cherchez. Si vous êtes au chômage, ne dites pas, oh, je crois dans la puissance de Dieu, je reste dans mon lit allongé. Allez, à Pôle emploi, minimum. Non mais, il y a des gens, vous voyez, Saint-Chérib, il a bougé les sous. Non mais on voit tellement de choses. Si ça vous fait rire, mais moi je vous dis, moi je ne ris pas dans mes entretiens. Je ne ris pas toujours parce qu'il y a des choses, il faut les faire. Et on les fait. Demandez, cherchez, frappez. Mais si vous faites ces choses, il faut toujours regarder le contexte. Dieu vous bénira. Est-ce que vous croyez, avec le peu qu'on vient de lire, si votre cœur est ouvert, que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais il faut savoir ce que Dieu veut. À combien plus forte raison. L'avant-dernière lecture. Romains 8, verset 32. C'est une des plus fortes. J'aurais pu la prendre pour conclure. Romains 8, 32. Regardez avec moi. Dans Romains au chapitre 8, au verset 32. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ce verset, puisque je l'ai souvent cité aussi. Romains 8. C'est un tas de questions qui sont posées, justement, sont posées pour nous faire réagir, comme c'est le cas ce matin. Vous voyez, on va lire à partir du verset 31. Parce que c'est une question, n'oubliez pas que c'est Dieu qui la pose, c'est pas Paul qui la pose, c'est Dieu qui nous la pose. Verset 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses ? Qu'est-ce que vous dites à l'égard de ce que je viens de vous prêcher ? Qu'est-ce que vous dites à l'égard du chapitre 8 des Romains ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, bon, est-ce qu'il faut rappeler toute la croix ? Mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et vous lirez la suite, vous lirez le contexte, vous lirez ce qui suit. S'il a donné son fils, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus grand que de donner son fils? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus grand que Dieu lui-même vienne sur la terre par le biais de la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand? Il n'y a pas de chose de plus grande. Si Dieu a donné le plus, il va donner le moins. Mais le moins pour nous, c'est des fortunes. Vous le comprenez bien. Il faut comprendre ces choses. Voilà pourquoi tant de chrétiens ne sont plus impliqués dans la vie de l'Église. Voilà pourquoi tant de chrétiens sont pauvres. Comme disait Saint-Chéry, oui, voilà, la faim, la famine, voilà ce qui vous attend. Eh bien, moi, je vous dis que si vous marchez avec Dieu, ce n'est pas la faim et la famine qui vous attendent. Si vous marchez avec Dieu, c'est la grâce qui surabondera. Si vous obéissez à Dieu, c'est la grâce qui vous habitera. Ne vous lamentez plus sur votre pauvreté spirituelle. Je ne parle pas de la pauvreté matérielle. Bon, c'est sûr que ce n'est pas facile si vous êtes dans la pauvreté matérielle. Mais est-ce que vous pouvez par là aussi faire des expériences avec Dieu? Et Dieu sait si peut-être quelqu'un, il vaut mieux qu'il reste dans une pauvreté. C'est plutôt que de s'enrichir et de se perdre. Bon, c'est un autre sujet. Mais ne vous lamentez pas. Prenez, mangez, on le saisit un peu plus à la Sainte-Cène, parce qu'il y a le côté physique du pain, il y a le côté physique du vin, alors il y a quelque chose à prendre. Mais dans une prédication, vous pouvez prendre, vous pouvez boire, vous pouvez vous rassasier, c'est important. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oui, si vous regardez les informations, vous entendrez au journal Saint-Chéribe. C'est un nouveau journaliste, Saint-Chéribe, qui va vous dire que eh bien, ça va aller de plus en plus mal. Vous entendrez Saint-Chéribe qui va vous dire que ça va aller de plus en plus mal. Et si vous regardez dans l'invisible, si vous lisez la Bible, vous aurez votre Dieu qui vous dira « Oui, ça ira mal. Mais moi, tu es mon enfant, tu es un enfant de Dieu et je te dis que la grâce surabondera. Le péché abondera, ça c'est clair. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous disent que les choses vont s'arranger. Ce n'est pas vrai. Les choses, le péché s'aggravera, mais la grâce de Dieu surabondera. » Et je termine avec ce texte. C'est un texte sur lequel j'hésitais, parce que c'est un texte qui est lié à l'argent. Mais c'est quand même un texte qu'il fallait que je prenne. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, vous savez, dès qu'on parle de l'argent, c'est un problème en France, l'argent. Vous savez, en Afrique, des fois, les Africains sont superstitieux, même quand ils sont convertis. C'est un gros problème en Afrique. La superstition, elle est tellement ancrée dans la culture que même quand les gens se convertissent, ils restent superstitieux. Ce n'est pas un reproche que je fais à nos amis africains. Mais en France, le problème de la culture, c'est l'argent. Et souvent, quand les gens se convertissent, ils restent liés à ce problème d'argent. Et c'est un problème, il faut en parler. Je voulais juste lire le verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 9. Parce que c'est la vérité. C'est exactement le même enseignement, à plus forte raison. C'est dit différemment, mais c'est pareil. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 9, on va lire d'abord le verset 8. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous allons lire. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous avez vu 4 ou 5 fois le mot « tout » qui revient dans ce verset. Vous croyez ce verset? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire combler de toutes ses grâces, en toutes choses, tous vos besoins, et que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre? Est-ce que vous le croyez? Mais il faut lire le contexte, parce que c'est ça, ne pas être honnête. Parce que voyez, là, on pourrait tomber dans une espèce de, comment dirais-je, d'autosuggestion. Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Moi, je crois que Dieu bénit ses enfants. Mais il y a dans ce texte, il faut lire le contexte. Et le contexte, c'est quand même de faire ce que Dieu nous demande dans l'offrande. Parce que c'est tout à fait normal, là aussi, quand on est chrétien, de faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu dit que si vous faites ce que lui vous demande, c'est pas un pasteur de vous dire donne ci, donne ça, il te faut donner ta dîme. Faites ce que Dieu vous demande. Si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu sera vous comblé de toutes ses grâces. Si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu, à plus forte raison, vous donnera en abondance. Est-ce que vous le croyez? Et je crois que dans les temps où les ténèbres s'épaississent, il faut que les chrétiens donnent ce témoignage. Oui, le péché abonde. J'apprends rien, et les gens du monde, ils n'ont rien à nous apprendre à ce niveau. On le sait mieux qu'eux, parce qu'on a les yeux ouverts, mais la grâce surabonde. Et ça, les gens du monde, il faut qu'ils l'entendent. Que nous avons un Dieu qui fera que la grâce de Dieu surabondera. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Soyons fidèles. Demandez-lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, vous voyez, je vous donne mon petit témoignage. Mais lundi soir, c'est vrai que j'étais quand même tristounette. Quand j'ai vu cette standing ovation à l'Assemblée nationale, je me suis dit, les pauvres. Mais ça, vous savez, quelque chose qui vous irrite un peu. Et j'ai refusé de m'endormir avec ça. Et je me suis endormi avec la grâce de Dieu surabondera. Et je sais que c'est vrai. Le cantique que je voulais prendre avec vous pour terminer, c'est ce cantique 55 dans les ailes de la foi. Ce cantique qui m'a interpellé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a presque 30 ans. ce verset, ce cœur qui dit, c'est dans Romains 5, on ne l'a pas lu, je voulais le lire, on n'a pas pris le temps de le lire. La quatrième strophe dit, il y a 30 ans, j'étais en train de chanter, Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Et j'étais en train de le chanter, et en le chantant, j'ai vraiment compris qu'on chante des choses qu'on ne vit pas. Et c'est vrai que c'est dans Romains 5, il est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Vous le regarderez, parce que je pense que vous regardez souvent les textes qu'on a partagés. Ceux qui reçoivent l'abondance. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez régner? Régner, ce n'est pas dominer sur les autres. Hein. Régner, c'est vivre au-dessus, c'est comme ces aigles. Quand M. Olé nous l'a rappelé jeudi soir, même ceux qui gouvernent doivent servir. C'est bien ça? Que celui qui est appelé à gouverner, il est appelé aussi à servir. Donc, je voudrais qu'on termine avec ce cantique et que vous disiez, je vais recevoir l'abondance de la grâce. Ce n'est pas les journalistes de la météo qui vont m'influencer. Hier, quand j'ai ouvert pour les informations, je suis tombé sur un journaliste qui était très, très intelligent et qui a dit, voilà, on va avoir un week-end pourri. Mais voyez, non mais... J'ai dit, heureusement que je ne suis pas dans les studios. Moi, j'ai dit, merci Seigneur pour l'eau qui tombe. Vous savez, 30 ou 40 ans en arrière, on voyait les champs gorgés d'eau, les fossés pleins d'eau. C'était une grâce. Demande à n'importe quel paysan si les puits ne sont pas en train de se remplir. C'est une grâce, ce n'est pas un week-end pourri. C'est une bénédiction. Merci Seigneur, on a un toit. C'est une grâce. Et pour régner, il ne faut pas écouter, il ne faut pas être influencé par les saints chérubes et les journalistes. Pour régner, il faut être influencé par les promesses de Dieu. La grâce surabonde et elle surabondera. Et dans le ciel, je peux vous dire qu'on va en être inondé de sa grâce. Inondé. Il est comme ça, notre Dieu. Il peut vous donner un peu plus que ce qu'il a promis. Il peut vous donner plus que ce que vous pouvez utiliser. Croyez-moi. Levons-nous, à part ceux qui sont sur le devant, et chantons ce cantique. S'il vous plaît, chantons-le pour terminer ce culte. Hein, terminons et chantons-le avec cœur. Et surtout la quatrième strophe, les dernières phrases.